Il est 13h à Fatima, même heure à Gobongo, 13h dans le studio à Radio Nekeluka, le journal avec Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Ghislain, bonjour à tous. Tout de suite, les titres. Les évêques de Centrafrique dressent un bilan mitigé de la situation sociopolitique du pays. Ces religieux dénoncent l'hypocrisie qui caractérise les différents accords de paix signés dans le pays. L'ONU note des avancées considérables dans la mise en œuvre de l'accord politique de paix du 6 février du côté du gouvernement centrafricain. Il déplore cependant des tueries et des violations graves des droits humains du côté des groupes armés. Et puis cette initiative des victimes de Gobongo pour lutter contre la pauvreté, elles ont procédé samedi dernier au partage de l'argent qu'elles ont partagé, épargné durant plusieurs mois. Basketball, c'est la poursuite de la Coupe de la Ligue de Bangui chez les dames cet après-midi au Palais des Sports. Assopété reçoit Racing Club de Bangui à 16h. Les évêques de Centrafrique montent au créneau contre ce qu'ils qualifient de l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords de paix dans le pays. Réunis en assemblée générale le 23 juin à Bossangwa dans l'Ouam, ces leaders religieux ont dressé un bilan mitigé de la situation sociopolitique du pays. Jean-Eudes Bagalé.
C'est dans un document de 9 pages que les évêques de Centrafrique ont évalué la situation sociopolitique de la RCA. Ils ont d'abord salué les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, notamment le HR, la MINUSCA pour le rapatriement de quelques Centrafricains au pays, ainsi que le redéploiement des forces armées centrafricaines FACA dans certaines villes. Toutefois, ils déplorent l'érection des barrières illégales et la formalité exigée par certains éléments de FACA aux usagers. Ils ont, par la même occasion, dénoncé le non-respect des différents accords de paix signés entre les acteurs politiques centrafricains, car, disent-ils, je cite, « le peuple est fatigué de l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords qui ont eu lieu dans ce pays ». Fin de citation. Ils indiquent aussi avoir constaté que chaque régime qui arrive au pouvoir semble toujours lié à une milice, notamment les Abay, les Karako, les Balawa, les Libérateurs, la Séléka et les anti-Balaka. Ils s'interrogent par ailleurs sur l'existence des requins et les menaces proférées ainsi que les actions de violence prônées par ce mouvement. Les évêques réclament du gouvernement le retour sans condition de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Sur le plan économique, ils souhaitent que les contrats minés entre le gouvernement et les entreprises étrangères se fassent dans le respect de l'environnement. Les évêques demandent aussi aux autorités de Bangui de tout mettre en œuvre pour garantir l'intégrité du territoire national et rendre effective la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Ils invitent également les groupes armés à respecter leurs engagements. Ils exhortent enfin la population à rechercher la paix, le dialogue, le bien-être comme condition de stabilité du pays.
Merci à vous Jean-Eudes Bagalé.
Parlons toujours de l'accord de paix INES du 6 février dernier. Le secrétaire général de l'ONU atteste que le gouvernement centrafricain a réalisé des avancées considérables dans sa mise en œuvre.
Juste là, cependant, il déplore des tueries et des violations graves des droits humains du côté des groupes armés. Un constat fait dans son dernier rapport rendu public le 17 juin dernier. Le résumé de ce document avec Rodrigue Leroy Benga.
C'est un document de 100 paragraphes écrit sur 23 pages qui brosse la situation sécuritaire, humanitaire, économique et sociale du pays. Il couvre la période du 15 février au 15 juin 2019. Le rapport mentionne que le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre de l'accord politique du 6 février, notamment en formant un gouvernement inclusif, en nommant les responsables des groupes armés à des postes de responsabilité, en mettant en place le comité de suivi du dit accord. Cependant, de l'autre côté, les groupes armés signataires de cet accord continuent d'en violer les dispositions, notamment en commettant des actes de violence contre la population civile, en prélevant des taxes illégales et en entravant la mise en place des institutions publiques et le déploiement des forces de sécurité. Les violations les plus flagrantes ont été perpétrées par les factions anti-Balaka, 3R, FDPC, FPRC, MPC et UPC. Le paragraphe 35 fait savoir que la situation humanitaire reste catastrophique. L'accès aux personnes en détresse continue d'être entravé par plusieurs facteurs tels que la médiocrité des infrastructures, l'insécurité et les obstacles venant des parties au conflit. Quelques 2,9 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont besoin d'une aide et d'une protection humanitaire. 2,1 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Un enfant sur trois est atteint de malnutrition grave et la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable. Jusqu'au 30 avril, le quart de la population centrafricaine est déplacée. On compte environ 612 000 déplacés dans le pays et près de 593 000 réfugiés enregistrés. enregistrés dans les pays voisins, mentionne le document. Les moyens d'action du pays en matière de justice sont restés limités. Seuls 18 tribunaux de première instance et cours d'appel sur 27 sont opérationnels, dont 16 en dehors de Bangui. Le secrétaire général de l'ONU, dans ce rapport, a salué les efforts déployés par le gouvernement dans la recherche de solutions à la crise que traverse le pays. Il invite les Centrafricains à s'approprier l'accord du 6 février et les groupes armés à respecter leurs engagements.
Le réseau du leadership pour la femme en Centrafrique, RELFCA, s'implique dans la recherche de la paix.
Il organise depuis hier à Bangui une formation de 2 jours à l'intention des jeunes filles. L'objectif, selon la présidente Lina Ekomo, est de partager les expériences avec les participantes dans le cadre de la consolidation de la paix. Cette rencontre a mobilisé plus d'une dizaine de filles des 8 arrondissements de Bangui, Bimbo et Begwa. Au micro de Eudalotine Tiko, Lina Ekomo, présidente du RELFCA, revient sur l'importance de cette activité.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du dialogue intergénérationnel. Donc, les femmes leaders doivent souvent se rencontrer avec les jeunes filles pour les encadrer, les former et également s'enrichir des expériences de ces jeunes filles. Particulièrement, l'atelier d'aujourd'hui porte sur la recherche de la synergie dans la mise en œuvre des résolutions 1325 Femmes, Paix et Sécurité et 2250 Jeunes, Paix et Sécurité. Vous savez que la population féminine est majoritaire dans notre pays. Et dans cette majorité, il y a beaucoup de jeunes filles. Et ces jeunes filles ne sont pas souvent impliquées dans les initiatives locales et nationales de consolidation de la paix. Donc, nous voulons offrir un cadre de réflexion entre les femmes leaders et les jeunes filles pour leur permettre de voir quel type d'initiatives conjointes elles peuvent réaliser au niveau de leurs arrondissements pour soutenir la dynamique de paix dans laquelle notre pays s'est engagé en ce moment.
Vous venez là d'écouter Lina Ekomo, présidente du réseau du leadership pour la femme en Centrafrique.
Les victimes de la crise centrafricaine du quartier Gobongo dans le 8e arrondissement de Bangui s'organisent pour lutter contre la pauvreté.
Elles ont procédé samedi dernier au partage de l'argent qu'elles ont épargné durant plusieurs mois. Chacun a reçu sa part afin de mener une activité génératrice de revenus pour son auto-prise en charge. Armand Nguindi a participé à la distribution.
Celui qui ne lutte pas pour sortir de sa situation sociale finira par périr un jour, dit un adage. Les victimes de Gobongo, bien qu'elles aient vu leurs biens et matériels pillés et détruits, ces dernières veulent sortir de leur situation sociale déplorable. Cette initiative a permis à Léa Yakété et Dimanche Oumar Samba, respectivement des victimes, de pratiquer le commerce.
J'ai reçu ma part 167 000 francs CFA. Nos animatrices nous ont signifié au début que si tu veux avoir plus d'argent, il faut beaucoup contribuer.
J'ai eu présentement 11 900. Et ce petit montant me permet de faire des activités génératrices de revenus. Cela, c'est pour justement lutter contre la pauvreté.
Déjà, certaines victimes commencent à rebâtir leurs maisons détruites pendant les événements militaires ou politiques. Marie-Rose Umba, présidente de l'association des victimes de Gobongo.
Nous avons commencé depuis 9 mois à contribuer. Nous sommes 20 5 personnes. Il y en a qui ont contribué selon leur catégorie, parce que cette crise nous a tous affectés. On ne baisse pas les bras. Dans une semaine, nous allons reprendre notre tantine. Cela va nous aider parce que certains d'entre nous commencent à reconstruire leur maison cassée.
Partout sur l'ensemble du territoire national, les victimes ne cessent de réclamer la justice et surtout la réparation pour tous.
Autre actualité, Inès, l'hôpital de Bombari est confronté à des difficultés.
Oui, Gisèle, un manque de matériel adéquat pour détecter certaines maladies, pas de spécialistes pour prendre en charge certains cas graves. Les responsables de services sont plaints et appellent le gouvernement à l'aide. Fanny Christel-Balekoussi.
Selon les responsables de l'hôpital de Bombari, la population n'a pas accès à des soins de qualité. Conséquence, la propagation de certaines maladies comme la tuberculose. Ajouté à cela, le manque de matériel au service de laboratoire. Une situation déplorée par Jules Beaumalayen, surveillant général du dit hôpital.
Les gens n'ont pas accès aux soins, ça fait qu'on a eu à découvrir même les cas de la tuberculose multirésistante. On manipule les mycobactéries. Cela a besoin d'une condition vraiment appropriée pour donner un bon résultat mais le laboratoire ne répond même pas. Et on a beaucoup de services pour un petit laboratoire qui ne répond pas aux besoins de ces différents services.
Au service d'ophtalmologie, c'est le même son de cloche. Pas de chirurgien pour opérer la soixantaine de cas de cataracte enregistrés entre février et mars 2019. Alain Dosimona, responsable du service d'ophtalmo, plaide auprès du ministère de la Santé.
Nous avons déjà recensé une soixantaine de les patients présentant des cas de cataracte blanche. Nous demandons l'intervention du niveau central pour qu'ils puissent nous envoyer l'équipe de chirurgiens ophtalmologistes.
Des plaintes jugées normales par Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé, qui promet plaider à un haut niveau.
Non, ce sont des plaintes qui sont logiques. Les conditions de travail des agents de santé sont les mêmes à travers le pays dans ce contexte de crise qui a été marqué par la détérioration du système de santé. Et donc, j'ai plutôt beaucoup de respect, beaucoup d'humilité lorsque je reçois leurs plaintes. Et ces plaintes-là sont parvenues au président de la République.
L'hôpital de Bombaré accueille plus de 900 malades par mois. Seulement un petit nombre bénéficie d'un soin approprié. Fanny Christelle Balekossi, de retour de Bombaré, Radio Ndikiluka.
Retour à Bangui, l'ONG italienne dénommée Amitié pour la Centrafrique a doté hier le service d'ophtalmologie de l'hôpital général en kit d'antonomètre à souffle.
Un équipement à hauteur de 13 millions de francs CFA pour permettre un bon traitement des patients qui ont un problème de vue. Selon les donateurs, cet appareil de dernière génération est une bouffée d'oxygène pour le pays qui en manque. Valentina Morini, responsable pays de l'ONG Amitié pour la Centrafrique, au micro de Igor Diaskin-Sinapaye.
On a donné un kit pour le service d'ophtalmologie. C'est un tonomètre à souffle. Donc, c'est un appareil nouveau, très sophistiqué, et avec une technologie vraiment élevée. C'est le premier appareil qu'il y a en Centrafrique. Il donne la possibilité de mesurer la tension oculaire. La tension oculaire, c'est une chose vraiment très importante parce que c'est le premier symptôme des glaucomes. Le glaucome, c'est une maladie qui s'appelle la maladie silencieuse. Parce que c'est une maladie qui ne donne pas des symptômes, il ne donne pas de mal aux yeux, il ne donne pas de mal à la tête, mais petit à petit, si ce n'est pas soigné, la personne elle va perdre complètement la vue. Ça, c'est une chose très grave parce qu'une personne qui perd la vue, il n'a pas la possibilité de vivre dans certaines conditions, il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner, il ne peut pas donner un soutien à la propre famille. Et cette don qu'on a fait à le centre hospitalier université, on l'a fait vraiment avec le cœur pour chercher d'améliorer les situations des vies et les situations de la santé de la population centrafricaine.
Enfin, les candidats du lycée de Obo au baccalauréat de la série A4 composent depuis ce matin.
Le président du centre est arrivé hier avec les sujets et les copies d'examen dans la ville. Au total, 21 candidats composent ces épreuves écrites qui prendront fin jeudi. Selon Nicolas-Yvan Dengoni, président du centre, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen. C'est pour la première fois que le bac est organisé au lycée de Bimbo.
Hors de nos frontières au Sénégal, soupçonné de corruption, le frère de Macky Sall a annoncé lundi avoir démissionné de son poste à la tête de la Caisse des dépôts et consignations.
Selon une enquête de la BBC diffusée au début du mois, une société dirigée par Aliou Sall a touché en 2014 un pot de vin de 250 000 dollars de Franck Timis, un homme d'affaires australo-roumain dont la société Timis Corporation a remporté deux contrats gazeux. L'affaire a fait les gros titres de la presse sénégalaise ces dernières semaines et provoqué des manifestations à Dakar, jetant une ombre sur le début du deuxième mandat de Macky Sall. La justice sénégalaise a ouvert une enquête.
Violence dans le centre du Mali, la MINUSCA renforce sa présence.
La MINUSMA a renforcé lundi sa présence dans le centre du Mali, région qui connaît depuis plusieurs mois une escalade des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires en inaugurant un nouveau secteur centre, notamment afin de mieux protéger les civils. Ouvrons maintenant la page sport. Une présentation de Henri Juvenal Kourépédé. Bonjour.
Bonjour Inès Langopo, bonjour à tous.
La Coupe de la Ligue de basketball de Bangui chez les dames se poursuit au Palais des Sports.
Assopité reçoit Racing Club de Bangui à 16h. Hier, Nutec Bantu Club s'est baladé devant Horizon Contact 88 à 38.
Juvenal, vous avez suivi cette rencontre hier au Palais des Sports.
Une domination sans partage du début à la fin de cette rencontre a permis aux expérimentés du Nutec de remporter ce match sur un écart de 50 points devant les jeunes de Horizon Contact. Meilleure marqueuse avec 28 points, Patricia Mbunga est en forme et déterminée à soulever le trophée de gagnant lundi prochain.
Ouais, depuis le début du championnat, j'ai essayé de me remettre en forme. Je cours beaucoup. Les préparatifs de la sortie pour le Cameroun qui m'ont beaucoup aidé. L'objectif d'abord, dans une semaine, prendre la coupe de la Ligue.
Cette lourde défaite est justifiée par le manque d'entraînement des jeunes filles de Horizon Contact, selon Sublime Zangameto, l'une des joueuses.
Alors, on a perdu aujourd'hui par manque d'entraînement parce que, premièrement, la plupart de mes coéquipières ne sont pas venues. Et ce qui a fait qu'on n'a pas su jouer au même rythme. Donc, je peux dire que c'est cela, en fait.
Nutec est favori pour le titre avec des joueuses expérimentées qui ont joué au niveau international.
La 18e et dernière journée du championnat de la Ligue de Bangui de football en deuxième division qui devrait débuter aujourd'hui n'aura pas lieu.
Oui, les matchs sont reportés pour vendredi, samedi, dimanche. Motif, le stade Barthélémy Boganda abrite en ce moment la session de formation des entraîneurs de football de Bangui et de province.
Justement, la formation des jeunes entraîneurs lancée hier est sa deuxième journée.
Oui, cette deuxième journée regroupe 24 entraîneurs de Bangui et de l'intérieur du pays. Elle se déroule du 24 au 28 juin ici à Bangui selon Atem Senesui, l'expert de la FIFA, formateur. Le but est de permettre à ses entraîneurs d'encadrer les footballeurs dans les différentes catégories des jeunes.
32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Deux rencontres sont au programme cet après-midi.
Deux rencontres du groupe F vont se jouer ce soir. Les Lions Indomptables du Cameroun seront opposés aux Licaons de la Guinée-Bissau. Vers 22h, les Black Stars du Ghana croiseront les écureuils du Bénin. On rappelle, victoire étriquée de la Côte d'Ivoire sur l'Afrique du Sud 1-0. Il n'y a pas de vainqueur entre la Tunisie et l'Angola. Ces deux formations se sont neutralisées un peu partout. Pour sa première CAN, la Mauritanie a reçu son baptême de feu en s'inclinant 4-1 devant les Aigles du Mali.
Juvenal, athlétisme pour finir. Le fauve Francky Mbuto a remporté dimanche le meeting international de Kaikefu en France.
Francky Mbuto montre son état de forme en réalisant 1 minute 50 secondes 89 centièmes sur 800 mètres au meeting international de Carquefou. Le fauve se prépare pour le 17e championnat du monde à Doha au Qatar du 29 septembre au 6 octobre de cette année.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndéké Louka. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version langue nationale.